passer maintenant au dossier de l'émission sur la médecine. On est très heureux de recevoir donc Jean Pennef.
Oui, donc on est vraiment très heureux, puisque un sociologue qui préfère venir aux oreilles loin du front plutôt que chez Fogiel, c'est quand même pas si banal. Donc Jean Pennef, c'est un sociologue évidemment très connu, qui a été enseignant à Alger, à Nantes et à Aix-en-Provence, qui a déjà réalisé de nombreux travaux, notamment sur l'Algérie, l'école, les militants syndicaux, mais qui depuis plus d'une dizaine d'années maintenant travaille sur le milieu médical. Où il a notamment réalisé des observations participantes à l'hôpital, qui ont été recueillies dans un ouvrage qui s'appelle « L'hôpital en urgence », publié chez Métayer. Et on le reçoit aujourd'hui pour son bouquin « La France malade de ses médecins », publié aux empêcheurs de penser en rond. C'est un bouquin un peu de synthèse de toutes les enquêtes qu'il a réalisées sur la médecine, qu'il aura l'occasion de nous expliquer aujourd'hui. Mais Jean, j'ai envie tout de suite de demander... Comment est-ce que tu peux expliquer cette croissance phénoménale de la place de la santé dans un pays, dans les pays occidentaux, mais plus particulièrement en France ?
Alors, d'abord, je suis content d'être avec vous. Merci de m'inviter. C'est un peu inexplicable et inattendu. Hein. Dans les années 50-60, on ne s'imaginait pas que le budget de la santé deviendrait le budget principal de la nation 30 ans après. Donc, c'est très difficile. Disons qu'il y a la conjonction de deux mouvements. D'abord, la recherche scientifique qui a explosé, qui s'était lancée à la fin du 19e siècle avec la biologie, et puis la pharmacie vers le milieu du 20e. Et à la fin du 20e, on se trouve à la tête de connaissances scientifiques qui sont énormes par rapport à ce qui avait été réuni auparavant. Et le deuxième mouvement, c'est une attention générale de toutes les populations, mais à deux degrés divers dans les pays riches, pour le corps, l'apparence, le bien-être, le mental, le physique, le sport... le maintien dans des bonnes conditions pour la vieillesse, etc. Et ce mouvement qui était permanent dans les classes aisées, hein, qui faisait de la santé un intérêt numéro un, s'est diffusé vers les classes moyennes et en partie vers le haut des classes populaires. Ce qui fait que la multiplication des populations sensibles à l'offre médicale, renforcée elle-même rapidement par la multiplication par 4 du nombre des médecins en 50 ans, ce qui est énorme, ce qui dépasse un taux de croissance en médecins donc disponibles tous les autres pays européens et même le Canada, ou le Japon, par exemple, on a le double de médecins pour 1000 habitants par rapport au Japon et au Canada. Donc, c'est un double ou triple mouvement, nombre de médecins, formation scientifique et progrès dans certains domaines, et enfin, les mœurs, le mouvement des mœurs qui a porté attention aux faits physiques, aux faits de santé. Voilà.
Et ça se manifeste d'ailleurs par un taux de consultation qui est devenu exponentiel, et aussi par le développement de nouveaux métiers, etc., etc.
Bien sûr, la médecine le médecin qui était seul auparavant, il avait dans mon village natal une sage-femme et un petit pharmacien. Maintenant, il est entouré d'une armée de réserve qui comprend les kinés, les assistantes sociales, les infirmières libérales, la protection médicale infantile, etc. C'est tout un réseau qui s'est créé pour protéger des populations dites fragiles. Les enfants, c'était évident, mais les populations âgées, ce n'était pas prévu. Certains secteurs ont été laissés de côté quand même. Les maladies professionnelles, les pathologies du travail ont été relativement délaissées par rapport à d'autres essors et attentions que la société a portées sur des problèmes ou des troubles. Donc, c'est un mouvement composite et compliqué à expliquer rapidement, mais qui a emporté à peu près tous les pays développés riches et la France plus que les autres. La question est, pourquoi l'exception française ?
Ce qui distingue quand même ton livre d'autres enquêtes qui portent sur le secteur de la santé, c'est que tu prends en compte les classes sociales. Et quand tu dis on a délaissé le milieu du travail, tu montres aussi quand même que dès lors qu'il s'agit des classes moyennes, on prend en compte leurs activités de travail. Notamment maintenant, on voit apparaître le problème du stress au travail qui concerne principalement les classes moyennes.
Oui, la réaction à l'offre médicale, qui est une offre diffuse et donc ouverte, mais qui évidemment se concentre, l'offre médicale se concentre dans les régions où il y a le plus de médecins qui ouvrent, qui consultent et qui soignent. Or, la disparité géographique des médecins, la position géographique des médecins en France est tout à fait étonnante. Hein. Enfin, l'Île-de-France, Paris-Île-de-France et PACA, c'est-à-dire Provence-Alpes-Côte d'Azur, regroupent à peu près la moitié des médecins en France et dépassent la moitié des dépenses de Français en France des dépenses de santé. Donc, on peut dire, voilà deux régions surmédicalisées, sursoignées. Alors, je ne sais pas si elles sont plus heureuses et en meilleure santé, mais en tout cas, il peut y avoir des déserts médicaux au niveau des généralistes et des petits hôpitaux. Il y a une très grande inégalité d'accès à la médecine, mais ça fait partie des énormes et complexes problèmes aujourd'hui qui se posent de manière inattendue depuis 20 ou 30 ans.
Vous parlez même de l'existence d'une « medical belt ».
Oui, 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 bien sûr, parce que c'est effarant. On peut regarder dans les villes du Sud-Est la concentration, Nice, Cannes, Fréjus, etc. C'est là où il y a les rentiers, quoi. En fait, il faut parler les rentiers, puis les rentiers de la médecine, de la part des médecins aussi. Ce sont des rentes géographiques extraordinaires, puisque là, ils peuvent consulter autant qu'ils veulent. Et une population âgée ou pas très âgée peut évidemment obtenir ce qu'elle désire, alors que d'autres, parce que l'hôpital est loin, le médecin est pas disponible, ils sont dans de moins bonnes conditions.
Et ce que tu notes quand même, c'est qu'on a quand même des difficultés à obtenir des chiffres un peu précis quand même sur cette consommation médicale, en particulier selon les classes sociales.
Oui, alors là c'est dommage et c'est étonnant parce qu'on aurait la solution évidemment très, très à la portée de la main, mais je pense qu'il y a un mur de secret que beaucoup d'institutions protègent, la CNIL, l'autre, etc. Et le secret médical. Le secret médical est une arme à double tranchant ou triple tranchant qui permet un peu toutes les manipulations. Je veux dire par là qu'en gros on ne sait pas trop le total des dépenses de santé, car on ne sait pas trop comment définir la santé. Il y a tellement de choses qui vont de la protection, de la précaution, la recherche, le marketing, etc. Et en tout cas, elles sont sous-évaluées, et les chiffres que l'on donne en ce moment, pour éviter que le déficit paraisse grandissant et dangereux, elles sont sous-évaluées. Les dépenses de santé sont plus importantes que ce qu'on dit en France.
Tu y rajouterais quoi
Alors, il suffit de transférer certains déficits vers d'autres budgets pour le faire disparaître. Mais on pourrait dire qu'il y a des secteurs, notamment de la recherche, qui ne sont pas pris en compte, et il y a les dépenses de santé qui sont faites directement par les individus sans être remboursées. Celles-là, on les suppose. En tenant compte de la péréquation et de la contribution individuelle que l'on demande à chacun. Mais comme vous l'avez vu récemment, les médecins font appel aux contributions personnelles dessous de table ou sur côte des opérations chirurgicales, ce qui fait qu'on devrait mettre dans les dépenses de santé tout ce que les patients, volontairement ou involontairement, donnent directement aux médecins qui les soignent et qui ne passent pas par l'enregistrement de la sécurité sociale. Donc voilà une partie des dépenses de santé qui sont inconnues, mais qui devraient les aggraver en bonne connaissance de définition dépenses de santé, puisqu'elles sortent de la poche de quelqu'un. Alors vous me direz, en général, ceux qui peuvent payer ce prix de 5 000 euros pour une opération sont des gens qui ont les moyens. Ce n'est pas évident, en tout cas il faudrait tenir compte aussi de ça. Il y a un dessous de table dans le monde de la santé.
Il y a aussi tout un tas de professions qui se considèrent elles-mêmes comme médicales, mais qui ne sont pas comptabilisées comme faisant partie justement de ce secteur.
Oui, oui. Alors, il y a toutes les formes de médecine dont on peut dire qu'elles sont utiles, puisque les patients ou les malades, selon le terme que l'on utilise, l'exigent, le demandent, en tout cas l'utilisent pour leur profit personnel, leur bienfait, enfin leur bien. Donc on devrait en tenir compte. Elles sont éliminées comme non scientifiques. Ce sont des médecines considérées comme empiriques et non scientifiques. Donc on les élimine. Voilà, il y a également une partie de l'automédication, pas toute, mais elle n'est pas décomptée, l'automédication. C'est-à-dire que nous faisons des dépenses de notre propre chef, sans passer par une consultation, une prescription, et c'est une dépense de santé, puisque nous la jugeons utile à notre santé. Donc, la santé est largement minorée en France. Mais si on prenait compte de tout, ça serait effarant. Donc.
Parce que l'automédication, elle est facile à calculer. Hein. Les chiffres sont quasiment disponibles, il y a des instituts qui la calculent. Ils sont là, quoi.
Oui, mais pas tout. Il peut y avoir des transactions. Il peut y avoir, par exemple, des demandes auprès d'un kiné qui sont directes et qui ne passent pas du tout par une prescription ni une déclaration. Donc là, on ne sait pas du tout si on... Alors, pour savoir les dépenses par classe sociale, là, comme tu me le demandais tout à l'heure, eh bien, en principe, pour l'essentiel des dépenses, ça serait possible puisque... Toutes les caisses d'allocation de remboursement de la sécurité sociale détiennent les dossiers et les fiches de remboursement. Donc, pour faire les totaux par foyer fiscal, etc. Et on pourrait voir quelle est la proportion selon le revenu de la famille et ou selon d'autres critères qui seraient des critères par an pour juger de la hiérarchie sociale, de la position dans la hiérarchie sociale. Alors ceci nous a été évidemment refusé. C'était des enquêtes anonymes que nous aurions faites, globales, mais on aurait pu voir par quartier, quartier riche, quartier pauvre, on aurait pu voir par densité de population, on aurait pu voir également par l'intermédiaire de quelques données, parce que les CSP ou les métiers ou les professions ne sont pas indiquées sur les dossiers médicaux, mais on aurait pu retrouver en anonymisant, on aurait pu retrouver quelles étaient les véritables situations derrière la demande médicale. Alors là, c'est un secret d'État et cela aurait fait apparaître des inégalités, des écarts extrêmes, je pense, qui auraient choqué toute la population qui préfère vivre, enfin pas toute, une partie de la population préfère vivre selon l'idée que chacun reçoit en santé ce dont elle a besoin. En tout cas, il y a au moins une différence qu'on ne peut pas nier, qu'il faut regarder en face avec courage, c'est la durée de la vie. L'allongement de la vie pour tous est une bonne chose, mais cet allongement n'est pas compensé par le rattrapage entre les professions aisées, prestigieuses, plus faciles, et le bas de la classe ouvrière, c'est-à-dire la moins qualifiée, etc. Là, on voit qu'il y a des écarts de durée de vie de 10 ans, et c'est pendant ces 10 ans, disons de 65 à 75 ans, que les dépenses sont les plus intenses. Donc, on peut bien imaginer que se concentre là l'essentiel de l'inégalité, puisque les gens qui vont mourir plus tard, heureusement pour eux, vont évidemment dépenser beaucoup plus que ceux qui n'auront jamais la chance d'atteindre cet âge-là. C'est là une première inégalité qui saute aux yeux. Il y en a bien d'autres, mais celle-là est la plus forte.
Et vous parlez, enfin, vous donnez des chiffres qui sont assez énormes, quoi. Même dans votre bouquin, vous parlez de 4% de la population qui est responsable de 53% des coûts de l'assurance maladie, ouais. Sans qu'on puisse effectivement rien savoir sur cette population, sans qu'on puisse déterminer d'où vient cette inégalité, si c'est simplement dû effectivement à une inégalité des personnes devant la maladie, etc., ou s'il y a de vraies inégalités de classe, quoi, tout simplement, derrière ça.
Non, là c'est un peu différent. Là, ce qui est différent, c'est les écarts extraordinaires de coûts selon les pathologies et selon l'intensité de la pathologie qui fait que des séjours en salle de réanimation, en soins intensifs, s'ils sont prolongés au-delà de quelques jours, comme c'est ce qui était dans les normes standards du savoir médical, peuvent évidemment coûter à l'hôpital la majorité de son budget. Le progrès de la médecine va avec un coût de la technologie, de la formation des personnels, un coût des appareils, souvent d'ailleurs achetés aux États-Unis à très haut prix, parce que se concentre là le savoir médical à peu près du monde entier. Et il est probable qu'une partie de cette disproportion vient du prix que l'on est prêt à mettre pour maintenir en vie des personnes au-delà des quelques jours par lesquels elles survivraient, dans des conditions d'ailleurs sur laquelle la morale peut s'interroger. Mais on peut dire aussi que sans qu'elles le veuillent d'ailleurs, ou à leur insu, ces personnes qui vont mourir très lentement sont l'objet de la recherche médical, parce que, évidemment, que c'est intéressant d'étudier des traitements sur des personnes en fin de vie, mais on a des cobayes vivants. Je ne suis pas là prêt à condamner cette pratique qui est au service probablement du savoir. Le seul problème est qu'il n'y a aucun contrôle démocratique, aucun savoir de la qualité des 4% ainsi investis de manière très forte, et que tout se passe à l'abri des murs de l'hôpital et des cliniques. Là.
Et moi, j'avais appris en étant étudiant que plus de la moitié de l'argent de la sécurité sociale était dépensé 2 jours avant la mort. C'était un chiffre qui m'avait marqué. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Est-ce que c'est toujours vrai? Est-ce que, pour rebondir un peu sur ce que vous venez de dire à l'instant.
Non, ces deux chiffres ne sont pas possibles. Là. Ils sont exagérés. On dit 10% des dépenses de santé dans les 6 derniers mois. Dans les 6 derniers mois. Ça, c'est plus plausible. Mais en fait, on ne le connaît pas exactement. Ce que l'on peut savoir tout de même, c'est qu'il y a une tendance de l'offre médicale qui est de dire, quand nous avons un appareillage très compliqué, des soins intensifs, des choses comme ça, il n'est pas possible de laisser vide. Donc, il faut les occuper. Il faut les occuper et on va trouver toujours des pathologies, des malades en fin de vie pour les occuper. Et donc, il y a une règle économique qui veut qu'il faut trouver le malade qui convient pour cet équipement. Le problème des personnes âgées qui est secondaire, il en découle que toutes les personnes âgées ne meurent pas à l'hôpital dans ce genre d'encadrement intensif et très coûteux. Il y a des personnes âgées qui peuvent mourir l'été tranquillement chez elles en canicule. Donc c'est compliqué. Il y a la recherche, il y a le désir de rentabiliser les hôpitaux et les cliniques. Et il y a les intérêts généraux des médecins, des personnels, de l'industrie pharmaceutique qui peut faire des essais, etc. En tout cas, c'est très difficile à écarteler comme raison de cause. Elles sont imbriquées.
Et tu disais quand même, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, tu montrais dans ton livre aussi que s'il y avait un intérêt à occuper les machines, toutefois, dans les hôpitaux, il vaut mieux éviter que les malades meurent dans le service en raison des concurrences entre services, quoi.
Ou c'est une loi à l'hôpital, il vaut mieux que le mort aille chez le voisin et que les chirurgiens sont tenus un certain taux de mortalité sur table, comme on dit, il vaut mieux qu'ils ne meurent pas sur la table d'opération, mais plutôt à la sortie, etc. Ceci est un peu anecdotique parce que j'ai été brancardier, j'ai travaillé à la morgue, j'ai fait donc une pénétration sociologique de l'hôpital et je me suis intéressé par des biais au fait qu'il y a une forte concurrence, une rivalité extrême entre chefs de service, entre services, etc., dans un monde où on s'attend à trouver une grande cohérence, une solidarité et en même temps une sorte de communauté d'intérêt pour les soins généraux apportés à la population. En fait, on se trouve devant un monde complexes, rivaux, individualistes. Ce sont des individualistes obligés de travailler ensemble. Alors ça donne des choses bizarres quelquefois.
Allegria! Campesina! A cavallo! Arranel! Prendo un portabucci, capacoggio, capadret. Prendo un portabucci, vergogno, calandret. La legge di un gioco è staccata un mondo fuori. Facci che patriotti, portate Santa Cruz. Prendo porta butta rana del caparacce, canto porta butta rana gauda un puntacce. Si tu camminau della rio dalla gun, conto camminau della rio di Calempun. Si è nata plavedina, danza cumbia campesina, la rana di no latina, barrio gas un'allegria. Minorita senza raia, a bocca di nuai da raia, quando la spita sa cavaia. Thank you.
cosas en barrayes, a boca de nuez arrayen, para las vistas acabayen, a gente calia un barbayen. Prelu por de buts, capa con capa dret, prelu por de buts, sin vergonya calandret, dale de un joc, está cato junto un buts, pachi que pachoc, sin costat de Santa Cruz. Canto por de buts, peran a te caparatge, canto por de buts, peran a gauden puntatge, si su caminau de la rua de la gun, punto caminau de la rua de Calempun. Si ha anat a pla vecina, dance cumbia campesina, l'ara ne dino latina, parto gas con alegria. Minoritats en barraies, a boca de nuez arraien, quan les vites s'acabaien, haguin de caliau per baix, riaiaiau.
Vous êtes toujours dans les oreilles loin du front sur FPP, donc on est toujours avec Jean Pennef, on parle de la médecine. On vient de faire le constat d'une grande opacité dans le milieu médical au niveau de l'évaluation des dépenses de santé qui ne sont pas toutes prises en compte, etc. etc. Est-ce qu'on pourrait aborder justement la raison d'une telle opacité, quoi? Quel intérêt elle sert, puisque finalement elle peut paraître un petit peu aberrante comme mode de gestion?
Juste un petit préalable au début. Ce livre, quoi qu'on en dise, n'attaque pas les médecins en bloc, ni évidemment la médecine. La médecine est le grand triomphe du XXe siècle quand même. Elle a grandi, elle a prospéré, c'est une réussite jusqu'ici à peu près. Et on ne peut pas non plus amalgamer tous les médecins. Il y a des médecins, je le rappelle quelquefois dans des exposés, c'est la seule profession où j'ai rencontré encore des saints, c'est-à-dire des gens qui se dévouent jour et nuit pour leurs malades ou pour des populations défavorisées qui ne sont jamais soignées, etc. Il y a donc le vieux reste de la médecine humaniste du 19e siècle qui se maintient à travers quelques personnes, quelques patrons, quelques grands patrons, quelques grands esprits, et il faut les saluer, il faut les respecter, il faut s'en souvenir quand on parle des médecins et des abus parfois d'autres médecins. Donc cela, je veux le rappeler. Et ceci dit, le livre est plutôt tourné vers l'organisation médicale, dont on peut penser qu'elle date du 19e siècle, c'est vrai en partie, dont on peut penser qu'elle ne s'est pas adaptée au grand mouvement de la science et des découvertes de la deuxième moitié du 20e siècle, et qu'elle n'est pas adaptée maintenant également à des pays où la population est multiethnique, avec des grandes cités, des îlots de pauvreté énormes, etc., et qu'elle pourrait laisser de côté comme au XIXe siècle, quand les médecins des cités s'installaient bénévolement dans les corons ou dans les bidonvilles. Aujourd'hui, on retrouve, il y a un retour en arrière en même temps que le progrès avance. Donc, c'est ce problème de l'organisation médicale, du fonctionnement médical, dans toutes ces composantes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a d'abord deux blocs qui sont généralistes, spécialistes, qui ensuite au sein des généralistes pas mal de strates, et au sein des spécialistes beaucoup de différences selon la spécialité, l'emplacement, la clientèle, et qu'il est difficile de réunir tout ça sous un terme générique. En tout cas, c'était cette question que les jeunes générations auront à régler, c'est-à-dire le coût de l'organisation médicale, pas le coût de la santé, pas le coût de la médecine, le coût de l'organisation médicale, c'est-à-dire sa distribution, le prix de la formation, le prix également qu'on est prêt à payer pour avoir un médecin la nuit ou pas, le jour, etc. Le prix de la liberté aussi de choix du praticien, tout ça. Ce sont des problèmes que l'on devrait définir, puisque les jeunes générations sont en train de prendre sur leurs épaules les déficits que nous faisons dans la santé. Et là, on a entamé pour la troisième génération nos enfants, nos petits-enfants pourront rembourser comme dette que nous faisons à leur nom.
Ouais, du coup, on peut peut-être parler de la Sécu, puisque c'est un bouquin qui est aussi orienté sur une présentation et une critique du mode d'organisation de la sécurité sociale. Jérémy, tu voulais peut-être rappeler les ordonnances.
Oui, on peut rappeler quand même ce qui s'est dit à l'ordonnance du 4 octobre 1945 sur le texte fondateur de la sécurité sociale. Accrochez-vous, c'est très intéressant. La sécurité sociale est la garantie donnée à chacun qu'en toute circonstance, il disposera des moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des conditions décentes, Trouvant sa justification dans un souci élémentaire de justice sociale, elle répond à la préoccupation de débarrasser les travailleurs de l'incertitude du lendemain, de cette incertitude constante qui crée chez eux un sentiment d'infériorité et qui est la base réelle et profonde de la distinction des classes entre les possédants sûrs d'eux-mêmes et de leur avenir et les travailleurs sur qui pèse à tout moment la menace de la misère. Donc on voit bien le souci quand même d'universalité, de protéger vraiment tout le monde et surtout les plus faibles, quoi. Alors,
Oui, ce sont des ordonnances historiques, hein, de vagues, elles se sont produites, elles sont rappelées sans arrêt, mais elles sont décalées aujourd'hui, complètement décalées. Hein, elles font sourire, évidemment, parce que à la fois le coût de ce souci a globalement augmenté très fortement, et ensuite toutes les populations maintenant n'en profitent pas comme c'était prévu. Tout de même, c'est une organisation qui a bien marché pendant 20, 30 ou 40 ans, je pense jusqu'aux années 80. Hein. Il faut reconnaître qu'un gros travail a été fait. Je voudrais signaler que le bénéfice de ces ordonnances a détruit tout de même en germe un projet d'organisation qui avait fonctionné presque sur un siècle, c'est-à-dire que les classes populaires, notamment les ouvriers, s'étaient réunis par l'intermédiaire de la mutuelle et de leur syndicat pour dire « nous, on va s'occuper de notre santé », pas entre nous, en payant des experts qui sont des médecins, et donc en salariant des médecins. Il y a eu toute une organisation populaire de la médecine qui a été dans les mains des syndicats, des organisations, des mutuelles, et ça, c'est oublié. Et là, les médecins qui faisaient allégeance, on peut en nommer beaucoup, de Raspail à Clémenceau, à Gélin, etc. Dans chaque ville, il y a au moins un grand médecin qui s'est passionné pour la médecine populaire et qui, au détriment d'ailleurs de ses revenus, est allé s'installer, ou en tout cas a travaillé dans des cliniques ouvrières, dans des dispensaires ouvriers, et avec de très très faibles salaires et compensations. Et cette autogestion de la santé par la classe populaire a été, on peut dire, pendant un temps, heureusement remplacé par les grandes ordonnances, mais malheureusement, la question aujourd'hui se repose de savoir si les classes populaires n'auraient pas intérêt à retrouver des formes d'organisation à elles, avec un coût mineur, une médecine parfois plus rustique, moins technologique, mais qui serait plus proche de leur réalité et des conditions de vie et de travail qu'elles connaissent. Parce que ce qui m'a frappé dans mon enquête, quand je suivais soit des consultations à l'hôpital, ou que j'amenais des malades sur leur chaise en consultation, ou que j'ai observé des consultations en libéral, c'est que les médecins ne sortent plus de leur monde. Ils font 10 ans d'études, pas tout à fait 10 ans pour tous, mais enfin 7 ans d'études, et ils ne rencontrent plus du tout les classes populaires. Ils ne savent pas ce qui se passe dans les usines, ils ne savent pas. Il se passe ce qu'ils savent dans les maisons, ce qui est devenu l'hygiène, la nourriture, etc. Ils l'imaginent, bien sûr, et ils font à partir de ça quelques déductions. Or, il est évident que quand on voit les deux, on voit bien que les prescriptions ne sont pas suivies, qu'elles sont mélangées, qu'elles sont arrêtées. D'ailleurs, nous le faisons tous, hein, quelquefois, nous combinons, adaptons ce que le médecin nous a dit à nos propres sentiments prévision ou en tout cas opinion, mais là surtout il y aurait des traitements, il y aurait des prescriptions, il y aurait des façons de traiter les classes en ce moment défavorisées qui ne seraient plus considérées comme adéquates. Donc la médecine pour tous, de manière un peu mécanique, en traitant tout ça dans un cabinet avec un passage à la chaîne, 10 ou 20 minutes pour chaque personne, est aujourd'hui inadéquat. Voilà.
Et vous dites notamment que les pathologies qui sont liées au travail à l'usine sont sous-estimées, faute justement de cette connaissance des médecins du monde du travail en usine.
Je me fie à quelques observations personnelles que l'on peut considérer comme subjectives ou anecdotiques, mais il m'a semblé évidemment, à l'hôpital, puisque une partie des ouvriers préfèrent aller se faire soigner en médecine généraliste aux urgences, pour un prix de secteur 1, c'est-à-dire que c'est là qu'ils trouvent le plus bas prix de la consultation, le prix modal, et ensuite qu'ils vont le trouver ouvert, ce cabinet de consultation, le soir quand ils rentrent ou sur le week-end quand ils ont une journée de libre. Leurs horaires ne correspondent pas du tout aux horaires d'ouverture des cabinets de ville. Donc, pour le peu que j'ai vu là, il me semble qu'effectivement, il y a des cas où l'on pourrait prendre en considération davantage leur absence de souffrance. L'expression de la souffrance chez un ouvrier endurci ne prend pas les mêmes formes et les mêmes symptômes que la souffrance d'un employé de bureau qui a 20 ans et qui, lui, saura trouver les termes que le médecin saura entendre. Qu'il les aura. Je ne dis pas qu'il n'a rien ou qu'il ne ressent rien, je dis qu'il ressent une pathologie différente à laquelle le médecin sera plus sensible, plus ouvert de sa propre histoire de médecin, de son propre milieu d'appartenance et probablement de la formation qu'il a reçue. Donc il y a une partie, il me semble, des pathologies, notamment osseuses, etc. Mais Nicolas Hatzfeld a fait un article là-dessus sur les pathologies de l'épaule, les pathologies des travailleurs à la chaîne, etc., qui sont aujourd'hui plus importantes du fait également que la préparation masculine au travail ouvrier est moins intense et en tout cas moins précoce qu'auparavant. Mais ça, il n'empêche, les pathologies sont là.
Et pour revenir encore à ce que tu viens de dire, donc tu disais bon, la place de l'organisation de la médecine pour les ouvriers a changé puisqu'elle était auto-organisée avant les ordonnances et qu'elle était organisée plus largement après. Une des difficultés aujourd'hui, c'est aussi que les organisations syndicales, ce qui a changé par rapport à avant les ordonnances, c'est que les organisations syndicales participent du système de l'assurance maladie.
Oui, c'est l'aspect le plus triste et le plus démoralisant que j'ai rencontré dans mon enquête, chose à laquelle je ne m'attendais pas. Parmi beaucoup d'autres choses, puisque pour moi cette enquête a été un événement imprévu dans ma vie, qui n'était pas du tout programmé, pour lequel je n'avais aucune raison, et parmi toutes les déceptions que j'ai rencontrées, cela en est une. C'est-à-dire qu'il est évident que depuis 30 ou 40 ans, il y a eu toute une série là, de directions à la CNAM, à la direction nationale, et puis également des changements de pouvoir au sein des caisses primaires. Ou des caisses régionales. Tout ça, c'est très compliqué. Au niveau national, on peut dire qu'un quart du temps, les premiers temps, ça a été géré par la CGT, mais c'est la belle époque. Hein, tout le monde en profite, il me semble. Là, c'est les années 50, 60. Et ensuite, c'est le long règne de FO. Alors là, il y aurait beaucoup à dire. Il y aurait beaucoup à dire. Les syndicats se sont beaucoup servis, je ne vais pas faire de procès aux uns aux autres, comme fonds d'alimentation de leur caisse, permission pour nommer des permanents qui font des travaux à l'extérieur et non pas dans le cadre de la santé, rente pour des militants que l'on veut récompenser, tout s'est passé et jusque, vous savez, dans les années 90, 15-17, où la CFDT a pris la direction. Donc on peut dire qu'on aura tout vu et à des degrés divers, il y a eu probablement des erreurs, des abus et des fautes. Ce que j'ai vu au niveau des caisses primaires, il y a chaque fois une combinaison de forces entre les représentants de l'État qui sont là à titre consultatif, mais également donc tous les syndicats qui ont des élus, qui peuvent être élus peut-être à vie d'ailleurs, qui peuvent être quasiment des permanents. Il y a l'appareil de la sécurité sociale, les médecins conseils, les comptables, les élus du personnel et des tiers qui représentent le monde de la santé extérieure. Donc il y a des combinaisons locales qui font que chaque caisse primaire aura une politique de contrôle et de surveillance des médecins qui sera différente. Par exemple, les médecins considèrent que l'Eldorado, c'est Nice et Marseille. C'est-à-dire que là, on peut tout faire au niveau des caisses primaires de maladie. On peut envoyer le même jour 60 ou 70 remboursements parce qu'il aurait vu 70 ou 80 patients. D'ailleurs, dans mon livre, je raconte qu'il y a des psychiatres de l'hôpital qui font ça. D'ailleurs, au bénéfice des classes populaires, ils disent je distribue, mais ils en profitent, etc. Et on voit d'ailleurs que les classes populaires immigrées, il ne faut pas avoir honte de le dire, elles en profitent pour une certaine partie puisqu'elles récupèrent tout ce qui est prescrit en psychotrope et elles vont le revendre dans les pays du Maghreb. Ce sont des filières extrêmement connues et de survie ou d'enrichissement de catégories populaires qui profitent de la manne. Il n'y a pas de bon et de mauvais d'un côté ou de l'autre. Donc, et Tatillon, alors regardez quand même, parce que son dernier livre est étonnant, c'est Claude Frémont, directeur de la caisse primaire de Nantes. je l'ai suivi de près, eh bien, à Nantes, il a dû démissionner, il a été découragé, il a tenté de faire des contrôles un peu plus stricts, il a dénoncé des médecins qui annonçaient 80 consultations par jour, et il a dû démissionner sous des pressions qu'il raconte dans son livre. Donc, le contrôle n'est pas possible, il y a 3000 médecins conseils en France, il y a 800 millions d'ordonnances qui circulent par an. Donc, on peut pas, à 3 000 médecins, on ne peut pas surveiller 800 millions d'ordonnances.
Mais justement, vous faites un constat aussi à partir de vos observations qui devient surprenant, justement, au regard de l'ordonnance que citait Jérémy tout à l'heure, qui s'appuyait sur une vraie volonté de redistribution équitable, que finalement, la sécurité sociale, aujourd'hui, elle redistribue, mais un peu à l'envers, quoi. C'est-à-dire que... Que les classes populaires cotisent au même titre que, enfin, celles qui travaillent du moins cotisent au même titre que les classes moyennes, mais qu'en revanche, les classes moyennes profitent davantage en fait des remboursements de santé que les classes populaires.
Oui, c'est un constat de grande tristesse que j'ai fait là, parce que j'avais vécu sur l'illusion d'une relative générosité globale. Et je n'avais pas prévu, perçu cela auparavant. Donc, il a fallu que j'attende 50 ans pour perdre quelques illusions et que je me mette à regarder les choses en face. Ça me semble évident que c'est quelque chose qui est indiscutable. Il y a un appel d'air des cotisations populaires vers les classes moyennes. Et pour une double raison, c'est... Le faible nombre de consultations de spécialistes dans les classes populaires par rapport aux classes moyennes et la diffusion des idées de la santé à tout prix et surtout à tous les plans dans les classes moyennes qui renforce donc les dépenses de cette classe. Je voudrais dire aussi que je me suis intéressé pour essayer de comprendre cette partie-là, qui étaient les non-malades, les non-dépensiers. Or, on considère qu'il y a 30 à 40% de la population qui ne consulte pas ou qui ne consulte jamais. Et je regrette qu'on se tourne jamais vers eux. Quel effet ? Un capital génétique inouï, un miracle de la vie en société, des métiers particulièrement légers, une alimentation choisie. Qu'est-ce que c'est ? Je ne le sais pas. J'aurais pu vous parler de mon expérience personnelle, puisque jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais été malade et que je n'ai pas pratiquement consulté, sauf quelques accidents au football quand il m'arrive de jouer un match. Mais c'est rien. Je pense qu'on perd une mine de ressources, de réflexion, qui relèverait d'une sorte de sagesse personnelle, de recherche de l'équilibre par des moyens non chimiques, de sens de la vie qui pourrait être que la solidarité ne passe pas par l'appel à la collectivité publique financière au moindre petit incident, toute chose qui relèverait du principe qu'on est une collectivité et qu'il y a un coût pour certaines populations très élevé par rapport à leur budget, à pour d'autres ce coût est moindre si le budget est plus important. Donc moi, j'aimerais qu'on donne la parole aux non-malades. Voilà.
Mais justement, vous parlez pas mal aussi de la disqualification en fait des modes de guérison populaires qui avaient été justement établis après des années, même des siècles d'observation, qui ont été complètement disqualifiés au nom de la science, quoi, assez récemment.
Oui, parce que j'ai vécu les deux époques. Hein. Je suis né en 40, donc j'ai vu dans les années, à la fin des années 40-50, j'ai vu qu'il y avait une sorte de sagesse populaire, mais sagesse populaire qui ne relevait pas uniquement de l'appel à la sorcellerie ou qui ne relevait pas donc de l'appel à des choses qui s'approchent de l'obscurantisme, mais qui sont des savoirs accumulés par l'humanité dans le temps. Mais dans le temps, on a accumulé des choses sur les herbes, on a accumulé des choses sur l'hygiène du sommeil, sur beaucoup de choses. Et les femmes ont transmis ce savoir d'une génération à l'autre. Ça passait par des sages-femmes, des institutrices, des bonnes sœurs qui étaient infirmières. Mais quand la science des hommes est arrivée, cette science dure... la biologie, la physiologie, la psychiatrie, elle a éliminé brutalement tout ce personnel qu'on appelait au 19e siècle les officiers de santé et qui faisait entre les malades et le médecin, qui était rare à l'époque, une sorte de zone intermédiaire où beaucoup de pathologies naissantes qui allaient être résolues par l'auto-guérison se voit confier immédiatement à la grande machinerie de la médecine, à la technologie et peut-être aggrave les conditions de santé ensuite des générations suivantes. Cela est évident pour les antibiotiques. Je n'ai pas été élevé aux antibiotiques, mes enfants et mes petits-enfants, oui, et je le vois de plus en plus, mais jusqu'à quel degré les souches et les bacilles ne vont pas devenir résistants à ces antibiotiques-là, ce qui fait que dans 30 ou 40 ans, on repartirait à zéro.
Alors, avant qu'on parle des médecins et de leurs revenus, je voulais juste revenir un petit peu sur ce que vous dites sur la sécurité sociale quand j'ai cité l'ordonnance tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que c'est un échec? Enfin, est-ce que c'est impossible d'arriver à cette ordonnance de 45 parce que la situation actuelle fait qu'on peut pas y arriver? La sécurité sociale est plus adaptée aux besoins de la population aujourd'hui. Est-ce qu'on peut pas imaginer y revenir quand même et dire que c'est un système de répartition et d'assurance ou de sécurité sociale qui est juste, et on peut pas imaginer revenir à ça? Et parce que vous avez pointé les responsabilités des syndicats, mais il y a aussi les responsabilités quand même du patronat dans l'échec de la sécurité sociale. Donc est-ce qu'on peut pas imaginer que cette sécu qui a été votée en 45 soit adaptée aujourd'hui?
Non, je suis pessimiste, franchement, mais je suis vieux, et donc
on aura
je suis
tout
pessimiste.
Essayé. Hein.
Aïe, aïe, aïe. L'idée de santé et l'idée de faire appel aux médecins maintenant à tout bout de champ est rentrée dans les esprits. Et je ne vois pas comment nous pourrions faire un retour en arrière, sinon en grande situation de pénurie ou de banqueroute financière. Si la sécurité sociale déposait son bilan, il est évident que chacun se retrouverait devant ses responsabilités en fonction de ses revenus. Alors, d'autres questions se poseraient, de distribution différente sur le territoire des médecins. Par des tas d'exemples, par exemple, pourquoi il y a si peu de médecins ouvriers aujourd'hui, d'origine ouvrière? Parce que le coût des études de médecine est relativement grand, bien que les études soient gratuites en France. C'est pour ça que des étrangers viennent. Bon, mais ils ont raison, la médecine française est assez réputée tout de même. Et donc, pourquoi il n'y aurait pas des systèmes de bourses, comme pour l'agrégation, par exemple, ou des bourses pour des étudiants qui s'engagent à ensuite enseigner dans des zones prioritaires, etc. Pourquoi il y aurait des médecins à valeur égale de première année d'examen, de réussite, etc. On n'offrirait pas des bourses sur 6 ou 7 ans en leur disant, mais vous irez enseigner peut-être à Montsolimine ou ailleurs, etc. Vous irez plutôt soigner là, etc. On en trouverait probablement. Il y a des médecins dévoués, intéressés à soigner les pathologies des mineurs ou d'autres populations. Mais l'ensemble des problèmes est si lourd, si grave, si peu connu. Je me suis retrouvé un peu seul sur ce livre-là. Je peux vous dire qu'il a été édité par miracle. Je peux vous dire que ce livre est sorti par miracle. Et j'ai reçu 25 refus sur 3 ou 4 ans. Je me suis battu 3 ou 4 ans pour l'éditer. J'ai eu un refus général de tous les éditeurs en France. Donc, je dis, c'est un miracle qui fait que je l'ai mis sur Internet, que Philippe Pignard est un éditeur un peu marginal, original, etc. Il s'intéresse à la médecine et l'a publié. Sinon, il ne serait pas sorti. Donc, je pense que c'est un épiphénomène, c'est un tout petit événement. Mais si on s'heurtait maintenant, les intérêts à la fois de tout cet ensemble, la société médicale, les médecins, l'industrie pharmaceutique, la bureaucratie de la sécurité sociale et tous les gens non malades qui sont devenus des patients et qui sont convaincus qu'ils ont besoin de la médecine quotidienne, là on crée une révolution.
Tout est bon dans le cochon, du groin jusqu'au jambon, c'est bon. La raté, les rognons, la queue en tire-bouchon, c'est bon. Désormais je veux chanter le cochon, le pavé, le saucisson, répétons sur cette terre polisson. Qui c'est qui est bon, c'est le cochon, c'est bon. Je pourrais dire bien des choses sur son talent. Il a la couleur des roses sans leur piquant. Et puis quand on a terminé, les bonbons sont. Reste de quoi faire des souliers et des pinceaux. Et ça c'est bon. Dans le cochon, du groin jusqu'au jambon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. La raté, les rognons, la queue en tire-bouchon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. je veux chanter le cochon. La la la, le pâté et le saucisson. Répétons sur cette terre polisson. Qui sait que manger le cochon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Oh, c'est un régime allégé. La résistance passe par le gommage effréné. Triette du manse. C'est une drogue, une friandise. À un tel point qu'on en planque dans les valises. Comme Jean Gabin. Contre le cochon du coin jusqu'au jambon. Et bon, la rate et les rognons, la queue en tire bouchon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Désormais je veux chanter le cochon. Le pâté et le saucisson. Répétons sur cette terre folle du son. Qui sait qui pensait le cochon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et tu scondes. Couplet philosophique. Rassurez-vous, philosophique de base, hein. Le cochon est tellement sage qu'en son honneur, je vous délivre un message qui vient du cœur. Battons-nous pour les droits de l'homme avec raison, puisqu'on dit souvent que les hommes sont des cochons. Tout est bon dans le cochon, du bois jusqu'au jambon. C'est bon, la rate et les rognons, le cul retient au bouchon. Je veux chanter le cochon, le pâté et le saucisson. Répétons sur cette terre polisson.
C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon.
Ouh, là, mon petit gars, je vais te dire. Qui c'est qui est bon? C'est le cochon. C'est bon.
Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel. Vous écoutez Les Oreilles du Front jusqu'à 20h30. On est avec Jean Pennef ce soir, qui a publié aux éditions Les Empêcheurs de penser en rond, La France malade de ses médecins. Alors, on va parler maintenant des médecins, justement, des médecins eux-mêmes, de leurs revenus, et également un petit peu du secret, puisque vous dites dans votre livre que le secret, plus que de protéger les patients, sert surtout à éviter aux médecins d'avoir à rendre des comptes sur leur activité, et donc sur leur revenu. Et le secret médical tend à se fondre dans la pratique sociale du secret des affaires. Donc, qu'est-ce que ça signifie exactement, cette phrase ?
Cette phrase signifie que dans un monde de démocratie avancée dans lequel nous sommes, l'essentiel des dépenses sont faites à l'insu des citoyens. Alors, je ne suis pas disposé à livrer l'ensemble des comptes, des revenus, par profession, par à l'ensemble de la population. Je ne comprends pas toutefois qu'il n'y ait pas des organes, je ne sais pas, représentatif de citoyens qui pourraient, d'une manière vigilante, regarder comment s'opère la distribution des dépenses de santé, quitte également à avoir un secret vis-à-vis de l'ensemble ensuite de la population, un secret qui pourrait être filtré. Le secret médical est un terme qui ne veut rien dire. Il sert dans tous les débats et, en fait, il est indéfinissable. À tout moment, on peut, dans l'hôpital, un médecin, un soignant, un infirmier prétendre refuser une information, y compris à la police, etc., sur le secret médical. Les patients peuvent refuser ce secret au médecin également. Il y a des secrets que les patients refusent aux médecins. Les médecins se refusent des informations entre eux au nom du secret. Si la pathologie doit être transmise complète, mais pas tout le passé du patient ou les autres pathologies, c'est très compliqué. Il y a eu des livres entiers consacrés à la déontologie. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a la morale, la déontologie, le code d'éthique et le secret médical. Le secret médical est le ciment qui permet de refuser toute investigation. Et nous, quand nous avons voulu enquêter directement sur certains points, on nous a opposé, quand nous étions persona non grata, c'est-à-dire pas bien admis dans l'enceinte où on voulait s'introduire, on nous disait c'est le secret médical. Donc, est-ce que le secret médical peut être opposé quand c'est la société entière qui fait des sacrifices au bénéfice de X ou Y ou de moi-même? Moi, je vais consommer un jour, peut-être grandement. Comment je pourrais opposer le secret au fait qu'on me demande des comptes sur mon état de santé et les dépenses que j'ai fait engager, puisque c'est l'ensemble de la société qui a cotisé pour me permettre d'être soigné. Je trouve ça tout de même très fort, enfin, parce que ça va me permettre, si cela est maintenu, de toutes les inventions de besoins que j'aurai et toutes les utilisations des cotisations des autres. Donc, je trouve que le secret vis-à-vis de la collectivité est une idée antidémocratique. Je le rapproche au secret défense, au secret militaire, au secret des affaires, au secret politique. Alors, on ne peut pas vivre une société organisée sans secret. Il faut maintenir des zones de secret. Il est évident que nous n'allons pas tous ouvrir nos maisons, nos domiciles, nos revenus, etc. Il y a des zones de secret qui sont, notamment au niveau de la politique nationale, qui sont recevables. Mais au niveau de la santé, je trouve que là, l'argument est fallacieux. Ceci dit, il y a une excuse à cet argument fallacieux quand il est opposé, c'est qu'il n'y a pas de demande. Il n'y a pas d'enquête. La sociologie de la médecine en France n'a pas fait d'enquête sur le secret. À qui sert-il? À quel moment est-il opposé? Quel est son contenu? Sur quelles règles il s'appuie? Sur quelle jurisprudence? Qui l'utilise plus souvent que d'autres? Je parle de médecins ou de patients, ou d'hôpitaux, ou d'établissements. Il n'y a rien. Donc, tous ceux qui en ont profité, ou qui en usent de façon abusive, ont à leur excuse, pour leur excuse, le fait que nous ne nous sommes jamais montrés inquisiteurs, curieux. Nous vivons sur l'illusion que la santé est gratuite, que c'est probablement les autres qui paient. Alors on se dit, selon la place qu'on occupe dans la société, c'est les riches ou les pauvres qui paient. Et cela nous satisfait. Moi, j'ai été très déçu par ma découverte. Cette découverte m'a complètement bouleversé, puisque j'étais également coupable de cet aveuglement, puisque sociologue jusqu'à 50 ans, je m'en étais jamais douté. Je me fais ce reproche quand même de m'être jamais inquiété, alors que j'avais été un militant, que je me croyais solidaire des classes malheureuses ou défavorisées, j'avais vécu sur des idées fausses. Et je suis le premier donc responsable aujourd'hui à qui on peut demander des comptes. Mais je pense que cette chose de façon raisonnable devait être mise sur le tapis aujourd'hui d'une façon tranquille, pacifique, sans qu'aucune section de la société veuille critiquer, attaquer, agresser une autre partie de la société. Ça pourrait être fait dans un tempo démocratique et d'une façon large. Mais c'est la fuite devant tous les risques qu'un électorat... L'électorat qui vote régulièrement est l'électorat âgé. Il est plutôt pour les grands partis et pour les partis conservateurs. Et cet électorat est celui qui consomme le plus en santé. L'argument de « il faut revoir les conditions de l'attribution des remboursements de la sécurité sociale » fait peur à tous les partis, mais plus à certains qu'à d'autres.
Surtout que tu disais en début d'émission, moi les médecins, on peut considérer qu'une partie des médecins sont relativement individualistes. Il n'empêche que tu montres aussi que c'est une profession qui est relativement bien investie dans le pouvoir politique.
Oui, c'est également un étonnement. Ils sont nombreux en France et ils ont spécialisé certains d'entre eux dans l'action politique. Alors il faut d'abord regarder qu'il y a une vieille tradition de l'élection de députés médecins en France. C'est le pays qui a le plus de médecins députés, un nombre de parlementaires, mais d'élus locaux aussi, à tout point de vue. Ce n'est pas toujours mauvais signe, loin de là. Ça signifie aussi que des médecins s'intéressent à la chose locale et sont prêts à prendre des responsabilités à tout point de vue et sont élus. Du moment qu'ils sont élus, ça veut dire également qu'ils sont appréciés par la population. Tout ça n'est pas négatif. Ceci dit, au niveau des parlements, le fait de mettre des médecins ministres de la Santé est peut-être bénéfique au point de vue de l'image. Je ne suis pas sûr, puisqu'on en a vu 4 ou 5 récemment se succéder. Je ne suis pas sûr qu'ils ne cèdent pas forcément au corporatisme ambiant et aux luttes d'école, et en tout cas à la faible envie de se retourner contre le milieu qui les a fait.
Au fond, les affaires étrangères, c'est peut-être pas mieux non plus. Hein.
Alors, vous vous dites, pour enfoncer le clou à propos de ce que vous dites, vous dites que 18% des médecins ont un mandat d'élu, et que c'est un pourcentage qui n'est atteint donc par aucune autre profession.
Bien sûr, puisque au moment où les Juppé a été battu sur ces fameuses ordonnances aussi, vous savez, la 95-97, là, Juppé, eh bien, et le mot là, d'un homme politique connu à l'époque, c'est « on perd les médecins qui sont notre pivot électoral ». C'est comme si la gauche perdait ses enseignants. Si la gauche perdait ses enseignants. Les enseignants sont à gauche, donc, et les médecins sont à droite, et le Parlement se divise en deux, comme ça, voilà. C'est un peu schématique, tout de même, c'est un peu schématique, mais il faut reconnaître qu'il y a une très forte influence des médecins sur les hommes politiques. Vous l'avez vu à différents moments à faire, quand les hommes politiques disent « on veut battre tel candidat », ils disent « on le peut ». Voilà, on le peut, ils disent, on affiche dans nos salles d'attente, un tel a dit ça, a fait ça, a refusé à voter, etc. Alors, je doute un peu de l'effet réel, un peu de cette puissance, mais du moment qu'ils y croient, ils intoxiquent les hommes politiques qui croient qu'ils ont sur la société un pouvoir que tout électorat risque de recevoir, et donc il est inutile de poser la question, de s'opposer à eux, de les contredire, ou en tout cas de limiter certains de leurs avantages. Pour tous les hommes politiques, c'est improbable.
Mais d'autant que vous soulignez le fait que les médecins ont, et vous citez notamment Jean-François Mattei, ont une conception morale de leur action à la fois médicale et politique.
Oui, on peut dire que tous l'ont, puisque quand même ils importent dans leur jugement, leur diagnostic, leur appréciation de la personne qu'ils ont en face, un jugement moral. Elle est propre, elle est sale, elle est polie, elle est impolie, elle a 4 enfants, elle a aucune hygiène sexuelle de protection, etc. Des jugements moraux sont impossibles à éviter. Mais là, c'était autre chose pour le professeur Mattei, c'était de dire, nous sommes au service de la population, nous sommes aujourd'hui les sages, nous sommes la catégorie la plus stable, la plus vers laquelle se tournent les malheureux, vers laquelle se tournent les travailleurs. Et nous n'avons pas de grandes affaires. Enfin, il ne le dit pas, mais je reconnais que les grandes affaires de pédophilie, de corruption que la justice a connues, la police, mais les enseignants, l'Église, etc. Ces grandes affaires morales, les médecins n'en ont pas connues à ce point-là. Ils ont quelques individus qui sont un peu repérés par l'ordre, puis par la justice, rattrapés. Mais ils n'ont pas de grandes affaires morales. Donc ils sont maintenus un certain taux. Et le professeur Mattei voulait dire ceci. Nous sommes au secours de la population. Comme au XIXe siècle, on les secourt par notre art, mais également en tant qu'élu, par l'assistance, le paternalisme, la fidélité qu'on apporte à certaines familles, le soutien moral, etc.
Alors on va être obligé de conclure, mais on va parler un peu sur une note positive, un peu sur les médecins qui sont un peu critiques. Dans votre ouvrage, vous citez un certain nombre d'ouvrages qui font la critique de la médecine, que ce soit sur le paiement à l'acte ou sur la formation des médecins eux-mêmes. Vous avez tout un chapitre sur la politisation de la profession, qui montre comment une profession qui était à gauche est passée à droite et puis est redevenue à gauche ou disons centriste. Enfin voilà. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, et est-ce qu'on peut espérer que les médecins soient des révolutionnaires?
Oui, la médecine n'a pas toujours été à droite, elle a quelquefois été à gauche, quelquefois au centre, ça va et vient, c'est intéressant. Il faut toujours la regarder sur un siècle, en fait. Il ne faut pas prendre tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui comme étant des découvertes, comme des champignons qui naîtraient à chaque élection et qu'on aurait à ramasser ou à résoudre. Avaler en tout cas, quelquefois sous forme de potion désagréable. Non, c'est compliqué, c'est très compliqué la médecine, parce qu'il y en a plusieurs, les générations diffèrent aussi, les jeunes et les vieux, les endroits. Il est difficile de faire des amalgames, mais on pourrait peut-être avancer en disant il faut dépassionner le débat, il faut le dépolitiser, il faut accorder plus de place aux médecins indigènes, entre guillemets, qui ont du savoir et qui ont vu pendant 30 ou 40 ans les erreurs qu'ils ont commises. Là-dedans, il y a des gens qui reconnaissent leurs erreurs, ils font des fautes. Mais le médecin est obligé de faire des fautes pour tenter des choses, pour tenter de guérir. Donc, ils ont une marge d'incertitude. Et il faut savoir qu'ils jouent plus ou moins avec cette marge d'incertitude, mais qu'ils jouent bien avec cette marge, il faut les remercier. Donc, il y a une série de grands médecins qui relèvent de la tradition de la 3e, 4e République et qui sont des humanistes, des grands patrons dans le bon sens du terme, qui ont fait des livres, qui ont été remarqués, mais pas plus, et qui malheureusement, parce que ce sont des individualistes forcenés, ne sont jamais réunis dans un grand débat entre eux pour dire « on est presque d'accord tous ». résumons nos idées, proposons des avancées, faisons un petit parlement de gens indépendants, libres de toute allégeance vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique, de l'ordre, etc., et proposons des solutions. Ça serait réussi. Malheureusement, tous poursuivent des carrières échevelées en indépendant et ils ne se rencontrent jamais.
Non, donc pas trouver le José Bové de la gauche de la médecine. Il nous reste à te remercier, Jean, et à rappeler donc que tu as publié La France malade de ses médecins aux éditions Les Empêcheurs de penser en rond. Ça coûte 20 euros. Rappelez aussi que les auditeurs pourront trouver sur notre site les références de ton site où tu renvoies aux expériences, aux observations que tu as pu mener en compagnie de jeunes chercheurs comme Christophe Andréot et Christophe Brochier, notamment en devenant des cobayes de testing de médicaments. On renvoie donc à ton site où tu exposes ces observations.
Voilà, c'était une nouvelle édition des Oreilles Loin du Front avec ce soir les animateurs radio de Secteur 1. Alors, pour rentabiliser les équipements techniques, on avait un doigt sur la gâchette, un sur la console. Juliette, il y avait aussi Alexandrine à ses côtés pour parler avec la bouche dans les micros. On avait Cédric. Cédric, un docteur qui ne fait pas d'ordonnance. On avait également Jérémy. Jérémy, un dentiste qui a la gentillesse de ne jamais vous mettre ses doigts dans votre bouche. On avait aussi Guillaume, un malade qui paye ses cotisations sociales mais refuse de se soigner. Et puis, on avait Juliette, infirmière en chef de la radio libre, indépendante et laïque. Et tout ça, c'était pour recevoir l'avant-centre de la sociologie française, Jean Pénef. Vous pouvez donc réécouter cette émission le vendredi de 12h30 à 14h et retrouver tout le reste, les archives, sur www.loldf, comme les oreilles loin du front, loldf.org. Pour l'instant, on vous abandonne dans les bras d'Écho du Capricorne, puisque voici Claudia, que ce soir j'ai de la fièvre et que toi tu meurs de froid.